healthcare workers, seniors, and loved ones. Let's comply with the lockdown and curfew to lower the risk of contracting COVID-19, because our health is important. For more information, visit quebec.ca/confinement. A message from the Gouvernement du Québec.
CKUT 90.3 FM, Montreal.
Production Nuit d'Afrique and TD Bank Group are proud to present
a musical encounter between Africa and First Nation.
Ming Mafrika, Jelly Tafa, and Anna Schneid on the stage of the National and broadcast live on the Nuit d'Afrique Facebook page Friday, February 26th at 8 p.m. More information on productionnuitdafrique.com.
There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Welcome to the Wednesday edition of Off the Hour right here on CKUT 90.3 FM. We are 22 days into the month of July. We are broadcasting from unceded Mohawk and Anishinaabe territory. You are tuned in to The Avalanche, a special presentation of CKUT's Community News Department. The Avalanche seeks to cover issues affecting those with disabilities. I'm your host, Zoe. On today's show, audio from the July 9th roundtable of Quebecois disability groups on mobilizing distantly during COVID-19. This event was hosted by Mouvement FAS. All that on CKUT 90.3 FM. You're listening to The Avalanche, where all abilities are welcome. If you would like to get involved, call 514-448-4041, extension 6788, or email news at cqut.ca. You can also follow us on Twitter at @avalanchecqt. Welcome back to The Avalanche on CQT 90.3 FM. Audio from the July 9th roundtable of Quebecois disability groups on mobilizing distantly during COVID-19. This event was facilitated by Mathieu Francourt from Mouvement FAS and featured François Bourbonnier from Ex Echo, Delphine Ragon from Parti, Vanessa Anne Paré from Memo Québec, Yano Tostado de Loisaga from MEPAC. That's up now.
Donc, j'espère que vous êtes nombreux et nombreuses. J'espère que vous êtes un peu au frais quand même en cette journée assez torride, à Montréal en particulier. Mais il y a des gens qui peuvent nous écouter de partout dans le monde. C'est la beauté de la chose, donc, aujourd'hui. Donc, je me présente, Mathieu Francourt, coordonnateur du Mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, le Mouvement FAS, un groupe qui organise cette table ronde aujourd'hui sur la mobilisation. Peut-être vous dire rapidement que l'idée est venue du fait que la situation, en particulier des personnes handicapées et des proches, des familles, est difficile quand même en temps de pandémie, de confinement, comme beaucoup de gens, mais avait un côté encore plus difficile pour certaines raisons objectives dont on va parler aujourd'hui, entre autres, et que le retour à la mobilisation dans l'espace public pouvait être un enjeu assez important pour les personnes, les familles et les groupes du milieu. Mais aussi pour l'ensemble du mouvement communautaire, parce que c'est une réalité que l'ensemble des secteurs vivent un peu partout au Québec. C'est pour ça, entre autres, qu'on a invité une représentante du MEPAC. Peut-être vous dire que depuis un mois et demi, il y a eu, c'est sûr, un retour intéressant de mobilisation publique. Vous avez vu les manifestations, entre autres, contre le racisme et la brutalité policière. Il y a eu des manifestations autour du logement, autour du 1er juillet. Il y a les syndicats en santé qui ont sorti déjà au mois de mai pour revendiquer différentes choses. Donc, le milieu communautaire a été un peu moins présent dans l'espace public. On va en parler pourquoi, puis bon, qu'est-ce qui s'en vient aussi pour la suite. Donc, peut-être vous dire que c'est un peu ça le concept, l'idée de la table ronde d'aujourd'hui. Le déroulement de l'activité aujourd'hui, ça va être à peu près 45 minutes de prise de parole par les personnes qui forment le panel, avec différentes questions que je vais leur poser. Ils se sont préparés quand même à l'avance. Ça ne sera pas juste l'improvisation, inquiétez-vous pas. Sinon, ensuite, il y aura une période de questions plus générales. D'ailleurs, on vous invite, les gens à l'écoute, à écrire sur la page Facebook vos commentaires, suggestions et propositions, questions, que je relayerai après ensuite aux panélistes pour qu'ils puissent répondre. Donc, ça va être à peu près le déroulement. C'est maximum jusqu'à 16 heures. Peut-être qu'on finira avant, on verra. Et on essaiera régulièrement aussi de faire un résumé de ce qui est dit pour relancer la discussion. Donc, voilà à peu près pour l'introduction. Je vais vous présenter les gens qui sont avec moi, donc autour de cette table ronde ou carrée ou rectangulaire virtuelle. Donc, il y a Delphine Ragon, coordonnatrice de Parents pour la déficience intellectuelle, PARDI, qui est un groupe impliqué à FASE. Il y a François Bourbonnière, organisateur communautaire chez Execo, qui est aussi un groupe impliqué avec nous. Vanessa Anne Paré, organisatrice communautaire à Mémo Québec, Moelle Épinière et Motricité Québec. Bonjour. Et il y a aussi Rana Tostado du MEPAC, Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. Bonjour. Peut-être rapidement, vous dire, je ne sais pas si c'est quoi FASE. Rapidement, c'est une coalition de groupes et de personnes en situation de handicap et de familles, donc en déficience intellectuelle, déficience physique et troubles du spectre de l'autisme. Une coalition de mobilisation d'éducation populaire et de sensibilisation qui travaille beaucoup autour des enjeux de l'accès aux services en santé et services sociaux particulièrement. Donc, qui regroupe dans la grande région de Montréal des groupes qui veulent s'impliquer, se mobiliser sur ces questions-là. Donc, première question que je vais poser à mes invités. Vous prendre 30 secondes, une minute pour présenter votre groupe aussi plus en détail, ne vous gênez pas. Et ensuite, je vais vous demander comment votre organisation s'est adaptée à l'arrêt des activités en personne dans votre organisation, donc dans les derniers mois. Donc, je vais commencer avec Delphine de PARDI.
OK. Ben, je vais commencer par présenter, bonjour tout le monde, par présenter PARDI un petit peu. Nous, notre mission, c'est une mission de promotion et défense des droits majoritairement des parents ou des proches des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Évidemment, ça passe par un aspect mobilisation et on a aussi un petit volet moins majeur, mais de soutien aux familles. Donc ça, c'est ce que fait PARDI. On est une petite équipe, on a 700 membres et on dessert des membres de Montréal. Et comment ça s'est passé pour nous, l'adaptation? Je dirais dans un premier temps que c'était facile parce que comme notre mission est une mission de défense des droits, nous ne sommes pas un organisme de service direct aux personnes. Alors, à part des conférences ou des moments ou des besoins d'accompagnement spécifiques, nous, on rencontre rarement nos membres au bureau. Donc, le mode télétravail a été assez facile, même si ce n'est pas un mode dans lequel on aime fonctionner. Après ça, il y a eu quand même un choc qui est que, comme nos partenaires sont majoritairement des organismes de services, mais pendant 3 semaines, on a eu l'impression que tout le monde avait disparu sur la planète communautaire parce que les échanges quotidiens, notre travail au quotidien, nous, c'est beaucoup de participer à des comités et tous nos partenaires de comités n'étaient plus là. Bon, on a réussi à passer à autre chose. Comment on s'est réorganisé? On s'est recentré un petit peu. C'est un projet qu'on avait de toute façon avant, comme tous les milieux communautaires, sur nos membres. Donc, en général, nous, nos membres nous appellent quand il y a un besoin particulier de défense des droits ou ils vivent une situation compliquée. Là, on est allé vers eux pour savoir. Alors, ce n'était pas des appels de courtoisie, hein. comme ça a pu être fait dans les SUS. Là, c'était des vrais appels de savoir comment ils allaient et puis surtout si on pouvait les aider. On a établi une communication qu'on ne faisait pas une fois par semaine par courriel pour les informer des situations diverses. Et une des nouveautés, c'est que nous, normalement, on couvre uniquement Montréal, mais on a eu des appels de familles de partout du Québec dans la situation, parce que ce qu'on vit à Montréal, c'est assez partagé dans l'ensemble du Québec pour ce qui est de la déficience intellectuelle, dans le cadre de la pandémie en particulier. Voilà.
Merci Delphine pour cette première présentation. Je vais passer la parole à François Bourbonnière, qui est agent de mobilisation chez Execo. François.
Bonjour à tous. D'abord, Execo, c'est un organisme de défense des droits des personnes handicapées physiques de Montréal. Les dossiers dans lesquels Execo travaille, c'est le dossier transport, le dossier santé, services sociaux, le dossier habitation, le dossier parentalité, puis la mobilisation des membres, le fait qu'ils soient actifs dans la revendication des droits. Chez Execo, qu'est-ce qui a été fait au début de la COVID? D'avoir une tournée d'appel pour voir si les membres avaient eu des coupures de service dans leur soutien à domicile. Après ça, on a ciblé des membres. On a fait une tournée d'appel à cette semaine, appeler les membres pour voir comment y aller, s'il y avait des difficultés pour les référer, soit un membre de l'équipe ou leur suggérer des ressources disponibles. Il a dit aussi que, bon, différents membres de l'équipe s'organisent, s'habituent au télétravail. Puis on a, par la suite, on a fait une tournée d'appel aussi pour voir quels sont les membres qui pouvaient participer par Zoom, qui avaient besoin d'équipement. On a outillé certains membres de matériel informatique pour qu'ils puissent participer aux différents communautés. Puis on a fait notre but, c'est d'offrir une formation là, pour permettre aux membres de participer par Zoom et aussi il y a eu des témoignages qui ont été recueillis par différents membres de l'équipe de travail là, pour faire connaître les besoins des membres. Continuer à ce que les membres soient bien servis.
Merci, François. Toujours sur la même question, sur l'adaptation des derniers mois en raison de la crise. Et ensuite, on va passer à la question à la suite de quelque chose. Vanessa Anne, Paris, de chez Mémo Québec.
Oui, donc Mémo Québec, moi, l'épinière et motricité Québec, c'est un organisme qui a été fondé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Nous, notre mission, c'est de favoriser l'autonomie et améliorer les conditions de vie, principalement des personnes lésées médulaires, c'est-à-dire des personnes qui ont une atteinte au niveau de la moelle épinière, qui sont paraplégiques ou tétraplégiques. Également, on s'implique beaucoup au niveau en représentation, pardon, pour toutes les questions qui touchent les personnes en situation de handicap plus largement. Donc, nous, vraiment, on est un organisme de service. On a un service d'intégration sociale, d'employabilité, de défense des droits et également, on contribue à la recherche scientifique. Lorsqu'on a été frappé par la pandémie, les premières semaines, je pense, ça a été surtout une réorganisation de l'équipe, de nos services. Donc, on a dû, retomber sur nos pattes, s'organiser en télétravail. Puis, tout de suite, comme plusieurs groupes, le souci, ça a été de maintenir... Donc, de maintenir le contact avec nos membres. Donc, tout de suite, il y a eu des initiatives qui ont été prises pour rejoindre par téléphone nos membres, à la fois qui sont clients du service d'intégration sociale et d'employabilité. Par la suite, en avril, on a un projet... trop bout de café tantôt, la petite voix qui chevrotte. Donc, on a un projet de sondage... dont l'objectif, c'était de rejoindre le plus possible notre clientèle, d'une part pour voir s'il y avait des urgences, des situations de détresse qu'on allait ensuite référer à une équipe qui s'assurait des suivis. D'autre part, d'aller chercher de l'input par rapport à de possibles actions de revendication, de défense des droits. Puis, par la suite, plus en mai-juin, on organisait plusieurs activités virtuelles, donc pour nos membres... pour garder contact avec
eux.
Donc, voilà.
Merci, Vanessa Anne, pour cette présentation de l'organisme et ce qui est arrivé dans les derniers mois. Je vais passer la parole à Rana Tostado du MEPAC. Vas-y, Rana.
Oui, merci. Le MEPAC, c'est un organisme national. Donc, on est vraiment plus en troisième ligne, je dirais. Dans le milieu communautaire, on regroupe 11 tables régionales d'éducation populaire partout au Québec. Donc, nos membres sont des représentants de cette table régionale-là qui, à leur tour, regroupe entre 20 et 50 organismes de base dans les différentes régions où nous sommes présents, qui travaillent directement avec la population. Donc, on a vraiment un rôle de support puis d'accompagnement des gens qui accompagnent d'autres gens dans les régions. On ne travaille pas avec un groupe de population spécifique. On travaille vraiment de façon régionale en utilisant l'éducation populaire comme moyen de mobilisation sociale autour de grands enjeux. Par exemple, cette année, on travaille depuis déjà l'année passée, mais surtout cette année, on pensait travailler énormément autour des enjeux de la justice climatique et des enjeux antiracistes. C'était nos deux grandes priorités de l'année. Donc, quand l'état d'urgence a été déclaré, évidemment, au MEPAC, à la permanence, on est trois personnes. Ça a été tous à Montréal, relativement facile. Pareil, de faire du télétravail. On travaillait déjà dans des bureaux qui n'étaient pas vraiment pignon sur rue. Donc, s'organiser à ce niveau, c'était facile. Mais après, étant donné toute la diversité de nos membres. Ça a été très... dans les premiers temps, c'était difficile d'avoir un portrait clair de ce qui se passait dans les différentes régions. Comme Vanessa a nommé, c'est difficile de garder le lien, d'avoir des informations de c'était quoi la réalité des groupes sur le terrain. Donc, très vite, ce qu'on a essayé, c'est de vraiment maintenir un contact régulier avec les tables régionales et être en support le plus possible, que ce soit en créant simplement des rencontres pour discuter, pour partager les réalités ou en offrant de l'information sur la gestion de la crise, sur les énormes angles morts qu'il y a eu. Ça, c'est une grande partie de notre travail. Aussi, on fait, comme organisme national, on fait partie du réseau québécois de l'action communautaire autonome, donc et du regroupement des organismes en défense collective de droite, qui sont deux regroupements nationaux qui font énormément de plaidoyer auprès du gouvernement en termes de financement et de reconnaissance de l'action communautaire autonome. Donc, très vite, avec ces deux réseaux-là aussi, on a été très en contact avec les représentants ministériels pour non seulement faire part de la réalité, mais aussi pour exiger qu'il y ait un soutien spécifique aux organismes d'action communautaire, un soutien économique, mais un soutien aussi au niveau de la reddition de comptes, le respect de l'autonomie et l'accompagnement dans les réalités qui se vivent dans les groupes communautaires. Donc, pour commencer, c'est ça ce que je
Ça commence bien, merci Rana. On va se reprendre dans les prochaines minutes sans faute. Je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent en direct que vous pouvez soumettre vos questions, commentaires, idées dans les commentaires sur la page Facebook de la vidéo, notre page Facebook du Mouvement Phase. Donc, la deuxième question que je vous ai demandé de préparer, panéliste devant moi, c'était, passer un peu plus à maintenant et ce qui s'en vient. Comment vos membres, vos équipes entrevoient le retour aux mobilisations, particulièrement celles en présence, donc dans l'espace public, que ce soit des actions, rassemblements, assemblées, soirées, discussions, ce genre de choses-là. Donc, comment vos équipes et vos membres voient ce retour-là? Et c'est quoi les défis? C'est quoi s'il y a des craintes, s'il y a des difficultés envisagées? Donc, c'est un peu là-dessus que je voudrais vous entendre. Donc, je repasse la parole à Delphine Ragon de Pardi.
OK. Alors, pour te répondre, Mathieu, nous, comme équipe, on est super prêts et même on n'attend que ça, de pouvoir remettre en place des actions de mobilisation dans l'espace public et notamment dans la rue. C'est bien qu'on soit super prêts comme équipe parce qu'une équipe qui est prête, c'est toujours un plus grand leadership pour pouvoir mobiliser les membres. Donc ça, c'est une force dans notre équipe. Donc oui, on a très, très hâte. Pour ce qui est de nos membres, c'est moins évident. Nous, on est, je le rappelle pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, Pardi, parents pour la déficience intellectuelle, nos membres sont des parents ou des proches de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. De tout temps, les familles, c'est un exercice compliqué pour la mobilisation. En tout cas, pour la mobilisation dans l'espace public. Voilà. Les familles se mobilisent très facilement sur des lettres ouvertes, des sondages, des questionnements, des choses comme ça. Mais dès qu'il s'agit de sortir, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on a les familles, c'est un portrait large. Hein, donc, on a des gens qui travaillent. Donc, la mobilisation, quand tu travailles, est plus compliquée. On a ceux qui vieillissent aussi et qui se sont beaucoup mobilisés et qui ont participé à créer les services qui existent aujourd'hui et même dans une meilleure version qui était la version d'avant, et qui maintenant sont ailleurs dans leur cheminement de vie. On a ceux qui ont leurs enfants à la maison et qui sont monoparentales ou en tout cas qui ont des difficultés de gardiennage. On a l'épuisement relié à être parent d'un enfant avec des besoins particuliers et des luttes quotidiennes. Voilà. Donc, c'est sûr que de tout temps, c'est une question pour nous, la mobilisation de nos membres. Par contre, je dirais aussi quand même que… Mais avant de dire ça, je vais le dire quand même. Nos membres ont aussi une grande force, par exemple, c'est que nous, sont des gens qui sont très concernés par les enjeux collectifs. C'est-à-dire qu'on a très peu de gens qui sont là pour défendre leur propre situation ou leur propre réalité. Ils ont bien conscience que ce qu'ils vivent, eux, c'est partagé. Et donc, c'est facile de les mobiliser dans des enjeux collectifs. Ça, c'est quand même une force pour nous dans la mobilisation. Mais on doit tenir compte, dans la mobilisation, on doit toujours tenir compte de la disponibilité des ressources des personnes concernées, le temps, l'énergie, etc. Et c'est vrai que c'est un facteur essentiel. Et dans nos membres, dans leur réalité, c'est compliqué. Donc ça, c'était avant, de tout temps. Maintenant, ce qui s'est rajouté avec la pandémie, c'est la peur. Parce qu'il y a eu tout le discours de santé publique qui a assez bien fonctionné. Et on a beaucoup, beaucoup de familles qui ont peur. Ils ont peur parce que soi-même, eux-mêmes, ils sont vieillissants, ils ont 60 ans et plus, et puis ils sont pris dans la peur de sortir et d'être contaminés. Ils ont peur parce que, pour plusieurs d'entre eux, leurs enfants sont immunodéprimés ou ont des réalités physiologiques qui font qu'ils sont plus fragilisés. Donc ça, c'est le nouvel enjeu pour la mobilisation qu'on n'avait pas avant et qui s'est rajouté, qui nous complique un petit peu, on va dire, la tâche dans l'idée de... dans les questionnements qu'on avait déjà avant de comment mieux les mobiliser. Donc pour nous, ce qu'il va falloir faire présentement, c'est, et ce qui est nouveau, c'est de les accompagner pratico-pratique à sortir, à ressortir de chez eux, de leurs espaces intimes, etc. Et à avoir moins peur. Voilà, ça c'est un enjeu qui est vraiment COVID-19.
Le mot est lâché. Donc, merci. Merci Delphine. Donc, merci Delphine. Juste dire aux gens qui commencent à écrire des questions, commentaires, idées, qu'on va les soumettre à nos panélistes dans la deuxième partie, dans une demi-heure. Donc, mais continuez à en mettre, on va y répondre, on va avoir le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, je vais repasser la parole à François Bourbonnière, agent de mobilisation chez Execo, toujours sur comment les membres et les équipes entrevoient le retour aux mobilisations dans l'espace public.
D'abord, il faut vraiment s'adapter à la limite de chacun et aux besoins de chacun de nos membres. Pour l'équipe de travail, mais il faut faire un retour progressif au bureau, puis s'assurer avant de recevoir certains hein, que les membres puissent venir à Execo directement. Il faut s'assurer que tout soit sécuritaire, qu'il n'y ait pas de risque pour eux et pour l'équipe de travail. Donc, et c'est aussi que les membres veulent participer, mais il faut vraiment qu'ils se sentent interpellés par les sujets qu'on va aborder. Et c'est aussi que leur sécurité est une crainte au niveau de leur sécurité personnelle, qui est aussi une crainte au niveau d'attraper le COVID. Il y a aussi le fait que il y a moins d'opportunités pour aller à des assemblées publiques. La ville parce que les choses se font par des travails, donc on peut moins aller directement sur place. Puis c'est par rapport à la longueur des manifs, donc il faut s'ajuster à ce qui va arriver. C'est ce qu'on prépare du mieux qu'on peut pour que tout se fasse de façon sécuritaire.
Merci François. Je vais repasser la parole à Vanessa Anne de Mémo Québec.
Donc, nous, je dirais qu'on est, on y va lentement, mais sûrement, dans le sens qu'on s'assure de rester prudent. Je veux juste mentionner quelque chose. On a des, je crois que c'est Delphine qui mentionnait tout à l'heure, il y a des personnes, ou François, des personnes immunosupprimées parmi nos membres. Il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas nécessairement un automatisme parce que la personne vit avec une limitation fonctionnelle qu'elle est automatiquement considérée plus à risque. Donc, vraiment, c'est à chacun là, d'estimer son degré de risque là-dedans. Mais nous, comme organisation, en fait, je pense qu'on se doit d'avoir aussi une coche de plus de vigilance qui nous amène justement à cette prudence-là, dans le sens qu'on ne voudrait pas mettre les gens en danger. On ne voudrait pas non plus... il y a toute la question là, du sentiment là, de sécurité, puis on ne voudrait pas non plus générer un foyer d'infection. Ceci étant dit, on a déjà commencé... en juin, une première activité d'intégration en présence, qui est une randonnée de vélo. Et avec ma collègue Sarah Limoges, qui est organisatrice communautaire à la défense des droits, on regarde peut-être pour un horizon qui serait le mois de septembre pour commencer vraiment à les mobilisations dans l'espace public. On va avoir le temps d'évaluer si d'abord le déconfinement ne s'entraîne pas une hausse, si... par ailleurs, il n'y a pas une deuxième vague tant attendue qu'on nous annonce. Peut-être qu'il y en aura une, peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc, on essaie de faire preuve de souplesse puis d'y aller plus avec privilégier une formule qui est de mobilisation qui est virtuelle davantage, même si ce n'est pas parfait comme moyen, étant donné que les gens finissent par être on va se dire, assez saturé parfois. Là, on baigne, on est bombardé de toutes parts par des informations. Puis il y a aussi la question de la fracture numérique. Évidemment que ça ne rejoint pas tout le monde. Donc, prudence, mais un objectif à moyen terme.
Merci, Vanessa Anne. Toujours sur la question du retour aux mobilisations, je vais repasser la parole à Rana du MEPAC. Si jamais, Rana, tu as des exemples aussi dans d'autres régions, parce qu'on parle beaucoup de Montréal, mais si jamais tu as d'autres exemples à l'extérieur, ne te gêne pas.
Oui. Donc, toutes les autres panélistes ont nommé pas mal de choses qu'on remarque aussi au MEPAC. Un truc que j'ai oublié de mentionner avant, c'est aussi dans toutes les premières semaines de confinement, on a beaucoup axé nos relations avec nos membres autour des pratiques de care, de pratiques de prise de soins et de respect des limites puis des besoins que chaque membre peut avoir, que ce soit familial, économique. On s'est vraiment assuré que tout le monde était à l'aise, était en train de vivre cette période de grande incertitude le mieux possible. Ça, on pense que ça a été quelque chose de gagnant parce que ça permet de solidifier des liens puis de combattre cet isolement physique et mental aussi qu'on a senti. Ce qu'on constate, évidemment, c'est que la mobilisation est quelque chose dont on a besoin, dont les groupes et les tables régionales du MEPAC ressentent le besoin. On a dû annuler, étant donné qu'on est un regroupement national, on a dû annuler plein de rencontres et d'activités qui impliquaient des gens qui venaient de partout au Québec et qui se réunissaient. Donc, ça a été difficile de se restructurer, mais on s'adapte avec les moyens qu'on a via Internet. Et pour l'automne, on considère que c'est fondamental de commencer à se mobiliser. Nous, comme organisme national, le support qu'on pense qu'on peut donner aux tables membres, c'est d'abord avoir résolu des aspects plus administratifs. On a pu tenir des AGA virtuels, etc. Avoir résolu tous ces aspects plus bureaucratiques pour pouvoir être le plus possible sur le terrain et accompagner les différentes mobilisations qui peuvent se faire dans les régions. Concernant aussi bien les perspectives de relance du gouvernement caquiste comme les enjeux climatiques qu'on vit si fortement de nos jours, nos membres et tout le monde convient que c'est nécessaire de se mobiliser régionalement à partir de l'automne, en essayant de respecter le plus possible, en respectant les mesures de sécurité, mais ça nous prend évidemment de la créativité pour trouver de nouvelles formes de mobilisation. On a eu déjà des exemples, je pense, dans les dernières semaines, d'autres groupes, d'autres mouvements sociaux qui sont mobilisés, au-delà de faire une manif. Mais c'est sûr que c'est ça, on essaye d'appuyer via aussi comme je disais avant, la diffusion d'informations qui contrecarre un peu ces discours de peur. Et on prévoit aussi de faire des outils d'éducation populaire adressés spécifiquement au milieu communautaire pour essayer de briser cette peur. Je pense que c'est en gardant justement un contact récurrent puis en prenant le temps de discuter avec nos membres qu'on va pouvoir rassurer le monde. Mais évidemment, c'est pas toujours gagné, mais tranquillement, pas vite, je pense qu'on avance.
Merci beaucoup, Rana. Donc, c'était notre deuxième question sur le retour, comment les gens voient le retour aux mobilisations donc, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, beaucoup de défis, de certaines craintes, certaines difficultés. Et aussi, mentionner qu'il y a du travail d'éducation à faire, du travail d'accompagnement à faire dans ce retour à des mobilisations. Et là, on va passer au contenu, c'est-à-dire pourquoi on devrait se mobiliser maintenant et dans les prochaines semaines, prochains mois. Est-ce qu'il y aurait des raisons pour se mobiliser? Hein? Peut-être qu'on peut en trouver. À cause du contexte de la crise qu'on vient de vivre, à cause de la crise économique, sociale, environnementale aussi, qui est toujours présente et qui va s'accentuer dans les prochains mois. On se rappelle qu'on a eu une annonce, un portrait de l'économie il y a quelques semaines qui nous annonçait un déficit record au Québec. On a eu celui du Canada hier, c'est un déficit record aussi. Donc, on craint évidemment des coupures, des compressions, autant aux services publics, aux programmes sociaux. Les groupes communautaires eux-mêmes ont été précarisés par cette situation. C'est sûr que les groupes qui ont perdu beaucoup, entre autres, de l'autofinancement, des groupes qui ne savent pas si la subvention qui est annoncée, bien, l'augmentation des subventions annoncées dans le dernier budget vont être toujours en vigueur dans les prochains mois. Des groupes aussi qui ont perdu que les équipes ont été fragilisées aussi, évidemment, par des départs. Les membres de nos groupes aussi qui se sont appauvris dans certains cas de façon importante et ça va être difficile à remonter la pente dans les prochains mois. Donc, est-ce qu'il y a des raisons pour se mobiliser dans les prochains mois? Je vais donner quelques indices comme ça. Donc, je vais vous passer la parole à tour de rôle pour avoir votre opinion, vos perspectives là-dessus. Je vais recommencer dans le même ordre, donc avec Delphine de Pardy.
Merci pour tes indices. Mathieu, tu as à peu près tout cité des bonnes raisons de se mobiliser. Je pense qu'il y a toujours en tout temps des bonnes raisons de se mobiliser dans le milieu des personnes handicapées parce que c'est vraiment une partie de la population qui est invisible, invisible dans les médias, invisible politiquement, entre autres choses. Donc, invisibilité depuis longtemps. Je dirais que ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai vu passer beaucoup ce mot-là, il est dur à prononcer, je vais l'essayer. En ce moment, on pourrait parler d'une invisibilisation au sens où du processus. Voilà, ce qui change un peu par rapport à invisibilité, c'est que ça nomme un peu un processus. C'est comme passer de l'invisibilité à encore moins d'invisibilité. C'est un peu ce qui se passe en ce moment où il y a de la place dans les discours politiques et médiatiques pour deux choses. Un virus, que je ne nommerai pas, je l'ai déjà nommé tantôt, et les aînés. Voilà. Donc, on est pas mal sur ces deux gros enjeux dans le discours et personnes handicapées, on n'en parle jamais ou à peu près. Pourquoi la mobilisation ? Comme je disais, tu as à peu près tout dit. De moins en moins de services pour les personnes handicapées. On peut s'attendre à des coupures de budget, en effet, reliées à ce que coûte la gestion de la pandémie. Nos moyens actuels, en tout cas en défense des droits, et de tout le temps lettres ouvertes, interpellation des ministres, interpellation des directions des SUS, c'est un petit peu comme encore plus que d'habitude des coups d'épée dans l'eau. Il n'y a pas de signe. Ou alors, si vous en avez vu, dites-le moi, mais que le système de santé et services sociaux a tiré des leçons de ce qui vient de se passer et a une prise de conscience incroyable de ce qu'il va devoir améliorer. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je pense que la mobilisation, elle est encore plus pertinente que jamais. Je crois, par contre, qu'il faut qu'elle… Ben, je crois depuis longtemps et depuis toujours que la mobilisation, elle doit… C'est bien, nous, comme organisme et comme professionnels, qu'on se mobilise. C'est bien aussi qu'on soutienne nos membres à se mobiliser, mais moi, en tout cas, à Pardy, nous qui accompagnons des familles, je pense que c'est jamais aussi efficace que quand les personnes concernées sont actrices de la mobilisation et sont de corps et d'esprit dans l'espace public. Moi, j'aurais beau parler de tous les enjeux des familles et des personnes déficientes intellectuelles, ça ne sera jamais aussi fort que si je suis accompagnée de l'ensemble des familles, ou en tout cas d'une partie des familles et des personnes concernées. Donc, et en ce moment, je pense que ça, tout ça est encore plus important. Voilà.
Merci beaucoup, Delphine. Juste dire, j'ai une petite demande spéciale sur Facebook, quand les gens ne parlent pas, de fermer leur micro, parce qu'il y a des gens qui sont très, très sensibles au feedback, même si vous ne les percevez pas, vous, les panélistes. Donc, petite demande spéciale. Passer la parole à François là-dessus, donc sur les raisons, le contexte pour se mobiliser à l'été 2020, automne 2020.
En fait, la COVID, ça continue à faire sortir certains enjeux, donc tout ce qui est le soutien à domicile, toujours un enjeu important pour nos membres. La sécurité alimentaire et le fait que y a moins de services alimentaires ont été coupés pour certains, normalement, puis au niveau des prix, la priorité financière, fait que ça inquiète nos membres, tout ce qui est l'accessibilité universelle des lieux qui continuent, puis aussi avec les différentes zones que la ville a faites, ben c'est pas toujours passé en fonction que le trottoir reste accessible aux personnes handicapées. Donc c'est tout des enjeux qui font que continuer à sensibiliser la population aux besoins de nos membres.
Oui, merci François. Je vais continuer donc sur le même sujet, sur le contexte et les raisons de se mobiliser dans les prochains temps avec Vanessa Anne de Mémo Québec.
Je pense qu'on a déterré pas mal de raisons jusqu'à maintenant de se mobiliser. Une crise, c'est un bouleversement, tout ce qu'on traverse en ce moment, mais c'est aussi une ouverture au changement, je pense, qu'on se doit de saisir. Donc, il y a peut-être une opportunité qui est présente de par cette crise-là, qui vient aussi mettre en relief certaines lacunes, là, justement, du système, notamment là, le soutien à domicile, la question de l'invisibilisation, tout le processus, donc... S'il y a un temps où il faut se faire voir puis s'assurer de rester visible, c'est en ce moment, justement. Et avec, bien sûr, la mobilisation des personnes concernées, pas seulement des groupes et des alliés dans cette... Donc, oui, c'est toujours pertinent de se mobiliser, effectivement, mais c'est peut-être encore plus le moment de le faire.
Parfait, merci Vanessa Anne. Autour de Rana Tostado du MEPAC, toujours sur la question du contexte et des raisons de se mobiliser.
Oui, j'en conviens avec tout le monde. Les raisons de se mobiliser sont super importantes dans ce moment. Premièrement, parce qu'on a vu à quel point nos services sociaux, nos services publics, quelque chose qu'on savait déjà, mais là, on l'a vu... avec beaucoup de souffrance et de peine, à quel point ils sont dysfonctionnels, à quel point toutes les années de coupure et d'austérité ne sont pas... ont des impacts très clairs. Aussi parce qu'on est dans une dynamique de crise permanente. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise sociale au Québec. Ce n'est pas la première fois qu'on, sous prétexte de difficultés économiques, etc., tous les services qui sont destinés au bien commun sont complètement coupés. Puis, par rapport à la relation entre l'État et le milieu communautaire, on voit comment le communautaire doit toujours absorber ces déficiences-là des ministères, des institutions, sans qu'il y ait vraiment une compréhension, une réponse adéquate à nos besoins. Donc, à un moment donné, il faut aussi refuser de continuer à entretenir ce cycle-là. C'est toujours une dynamique qui revient et qui revient. Ce n'est pas un cas exceptionnel. Peut-être dans ce cas-ci, ça a été plus grave, plus visible qu'à d'autres moments. Mais c'est une relation de pouvoir qui va continuer à se développer. Je pense aussi que dans ces périodes de crise sociale, quelque chose de très positive, c'est voir comment la société civile, les personnes se sont solidarisées entre elles et créées des réseaux alternatifs de soutien, étant donné l'incapacité de l'État québécois, de tous les États du monde, à répondre adéquatement aux besoins de leur population. Enfin, ça, c'est quelque chose, je pense, un catalyseur super important qui peut nous aider à franchir la peur. Je pense aussi que, comme ça a été nommé, les perspectives de relance sont vraiment pas positives. On voit très bien les couleurs du gouvernement, vers où il s'en va, une relance qui est vraiment basée sur des façons de faire à l'ancienne qui ne vont que bénéficier certains et qui vont avoir des impacts énormes sur la majorité de la population. Fait que je trouve que c'est important de prendre conscience de ça et d'essayer de contrecarrer. Puis eux, ils ne vont pas attendre que tout le monde puisse se déconfiner puis avoir une vie comme avant pour faire avancer leur agenda. Fait qu'il faut que nous, on trouve d'autres moyens de faire avancer nos valeurs et nos espoirs de justice sociale. J'avais une autre idée que j'ai oubliée, excusez-moi. Oui, ce qu'on voit aussi et qui est très important de se mobiliser, c'est qu'on vit vraiment, peut-être que l'isolement, le confinement ont accentué cette réalité. Il y a énormément de discours alternatifs qui créent, on voit de plus en plus des mouvements conspirationnistes qui contribuent à briser ce lien de confiance entre les autorités en place et la société civile. Ça, c'est très dangereux. Ça met en situation de vulnérabilité beaucoup de personnes qui sont déjà marginalisées. Donc, ces discours-là, et notamment via les réseaux sociaux, prennent de plus en plus de place. Ils existaient déjà avant la COVID, mais se sont accentués en ce moment. Et c'est très important de contrecarrer ces discours-là qui, justement, c'est vraiment la liberté individuelle de chacun pour soi et qui vient probablement de personnes qui... en une grande partie qui ne trouvent pas de réponse à leur détresse et à ce sentiment d'incertitude puis d'être laissé tomber par la société. Donc, c'est important qu'on puisse être présent sur le terrain pour discuter, pour comprendre c'est quoi les vécus puis pouvoir travailler ensemble. Donc, on a vraiment besoin de beaucoup de créativité et de présence. Mais il faut qu'on puisse être solide puis que... On prenne des forces. Espérons que l'été nous donnera ça.
Merci, Rana. Espérons que l'été nous donnera des forces, mais l'automne risque d'être très chargé, hein, comme on parlait un peu tantôt, dans les groupes, évidemment, chez les membres aussi qui auront toutes sortes de choses à régler au niveau de leur vie. Donc, la mobilisation doit avoir sa place là-dedans aussi, à cause de l'agenda politique, comme vous parliez tout le monde, et aussi à cause des enjeux importants qui nous touchent. J'encourage toujours les gens à continuer à nous envoyer des questions, commentaires. Je vais les mentionner tantôt. Je vais revenir là-dessus avec nos panélistes. Les gens réagissent beaucoup sur la page Facebook. C'est très, très intéressant. Il y a même des débats entre les personnes, donc c'est merveilleux. On va reprendre ça tantôt avec nos panélistes. Terminé pour les questions qu'on avait préparées. J'avais demandé à nos panélistes s'il y avait des idées originales d'action dans le contexte actuel ou dans un contexte régulier, mais des idées nouvelles ou différentes. Le mot maître ces temps-ci, c'est se réinventer. Bon, ça veut dire tout et rien, évidemment. Mais si jamais les gens qui sont devant moi, qui sont avec moi, qui sont dans des groupes communautaires, des recoupements communautaires, ont des idées, je vais vous passer la parole à tour de rôle et puis on va pouvoir peut-être être surpris. Donc, Delphine Dupardy. Ton micro, Delphine.
Je suis contente d'être la première à essayer de vous surprendre. Je me suis dit comment je vais répondre à cette question sans avoir l'air de manquer de créativité. Nous, présentement, au jour d'aujourd'hui, on s'est engagé avec deux projets que Mathieu, tu connais bien, puisque c'est avec deux projets de mobilisation du mouvement Phase, que je dirais qu'on pourrait qualifier d'originaux, mais qui ne sont pas nécessairement complètement des projets de mobilisation dans l'espace public. Un petit peu pour l'un, pas vraiment pour l'autre. Ces deux projets, le projet Épigramme est un projet avec un groupe qui s'appelle Comptoir Public et qui délivre des messages publics en fait en les criant dans la rue, les messages étant récoltés auprès de citoyens qui peuvent autant décider qu'on crie une lettre d'amour à leurs voisins ou un message beaucoup plus viscéral ou politique. Alors, on s'est engagé dans ce projet-là qui est une manière un petit peu de pas, puisque les familles ne sont pas prêtes à sortir nécessairement dans la rue, de quand même relayer leurs paroles dans un espace qui n'est pas un espace intime, mais un espace public. Donc ça, c'est quand même un projet original, même si on ne parle pas encore d'une manifestation. On a aussi un projet photo avec le mouvement Phase qui s'inspire d'un projet belge du groupe Gump qui reprend un petit peu les revendications de nous sommes de la campagne Nous sommes, nous voulons, où on ajoute un hashtag Je craque. Donc, nous sommes des personnes en situation de handicap et nous voulons des services de qualité avec une photo de la personne et puis un hashtag Je craque dessus. On n'a pas parlé d'amener ça dans l'espace public. C'est sûr que c'est plus une mobilisation sur un mode virtuel, réseaux sociaux, pour l'instant, en tout cas, telle qu'elle est envisagée à partir de la fin août. Mais je me disais, en pensant à cette question, que peut-être, ça serait intéressant, en fonction de ce qu'on récolte comme photo, d'envisager, bon, on parle de coûts puis de démarches, mais que, mettons, ces affiches puissent être sur les arrêts de bus ou dans des espaces d'affichage de la ville de Montréal. En tout cas, ça pourrait être un moyen de relayer ça dans un espace qui est public. Ça, c'est pour deux projets que je trouve un petit peu créatifs et possibles en ce moment. Sinon, je crois que la question, en tout cas la question que je me pose, moi, c'est moins de trouver des projets originaux. J'aimerais bien, mais la question plus fondamentale, c'est de trouver des projets qui fonctionnent, de rassemblement et de mobilisation. S'ils ne sont pas originaux, qu'ils sont extrêmement classiques, c'est dommage, mais tant mieux s'ils fonctionnent, c'est ça qui compte. Je me disais qu'en réfléchissant à Pardi, à nos membres, je me disais que peut-être qu'au lieu de leur proposer comme professionnels, milieu communautaire, etc., des projets de mobilisation, ça serait intéressant qu'on aille les consulter sur vous. Qu'est-ce qui vous intéresserait comme projet de mobilisation? Pas nécessairement sur la cause, parce que je pense que les enjeux, tous nos membres se rassemblent sur les enjeux communs, mais sur les moyens. Donc, je me dis, parfois, c'est bien de consulter les personnes concernées, puis surgit peut-être des choses, pour le coup, plus originales que ce que nous, on est capable de penser. Ça, c'est une chose que je voulais vous partager. Et puis, sinon, puis ça c'est un point de vue très personnel, mais je vous le partage, comme milieu de personnes handicapées, dans ce qui est de l'ordre de la mobilisation, surtout manifestation, on est un petit peu mou. Hein. Puis alors en déficience intellectuelle, je dirais encore plus mou que peut-être dans le milieu plus large personnes handicapées. Ça fait longtemps que je me dis qu'on devrait s'inspirer de mouvements qui soient plus militants et plus activistes dans des actions. Je pense beaucoup, moi, parce que c'est plus des références que j'ai, mais au mouvement féministe. Donc, pour chercher des projets originaux, moi, je m'inspirerais de mouvements plus activistes. Et j'ai un peu l'impression que, au-delà du nombre, il faut qu'on soit nombreux pour que nos projets soient visibles de mobilisation. Et je me dis aussi qu'il faut que nos projets ou nos actions soient plus trash. Parce que dans un moment où c'est très dur d'être visible, plus c'est trash et puis plus on est relayé, notamment dans les médias, mais plus ça va nous donner de visibilité. Voilà, mais c'est un truc très personnel, mais je vous l'amène.
Trash. Bon, c'est bon. Donc, toujours sur ces idées originales d'action, de penser différemment à faire les actions dans le contexte actuel et celui des prochains mois, je vais repasser la parole à François de Exit.
Alors, certains membres ont parlé de faire une manif à distance. Il y en a d'autres qui ont souhaité écrire des témoignages ou enregistrer des vidéos et les diffuser par les réseaux sociaux et aussi solliciter des entrevues avec que les membres sollicitent des entrevues avec les médias. Que c'est que les membres ont eu pour l'instant. Et c'est sûr qu'il y a déjà on continue à diffuser en cette semaine des témoignages sur le site à domicile de la région de Tseko. C'est de d'essayer de publiciser qui va faire que on va réussir à se faire voir dans l'espace public.
Merci François pour ces suggestions. Je vais continuer avec Vanessa Anne de Mémo Québec pour des idées super originales.
Et ça, c'est la question qui me chicotait le plus. En toute humilité, je ne pense pas apporter tant d'eau au moulin, mais ce que j'ai entendu vraiment Delphine et François, j'adhère complètement à tout ce que vous avez dit. Dans le fond, des idées originales, on cherche souvent l'idée qui va avoir le plus d'impact possible, là, qui va toucher les gens, je retournais la question dans ma tête, j'ai consulté ma collègue. On peut prendre ce qu'il y a déjà, tous les symboles associés à la pandémie, on peut les récupérer, on peut les transformer, on peut user de subversion aussi, on peut jouer un petit peu avec ça, si on parle de créativité, mais comme Delphine le soulignait, c'est pas une fin en soi. L'important, c'est vraiment d'arriver à notre cible, c'est d'avoir de l'impact. La question, François, d'interpeller les médias pour des entrevues, c'est un outil qu'on utilise beaucoup aussi à Mémo Québec parce qu'on sait que c'est diffusé largement, puis c'est une forme d'espace public, là, si on veut. Donc, je suis là pour brasser des idées, brainstormer, mais c'est ça. Voilà ma contribution à cette question. Puis j'ai hâte de voir s'il y a eu des suggestions qui ont été faites aussi sur le chat, de bonnes idées.
À suivre dans quelques minutes, c'est un mystère. Donc, je vais terminer sur cette question-là avec Rana du MEPAC sur les idées originales pour le retour aux actions dans les prochaines semaines.
Je suis vraiment d'accord avec ce que Delphine a dit. Parfois, on a comme cette pression de devoir être original, puis il y a un moment aussi où il faut être effectif ou efficace ou que ça marche. Et on ne doit pas non plus vivre avec cette pression constante de vouloir...
Welcome back to The Avalanche on CQT 90.3 FM. You are just listening to audio from the July 9th roundtable hosted by Mouvement Fuss. If you would like to listen to the remainder of this roundtable, you can access it at Mouvement Fuss's website, mouvementfuss.org. Spelled out, that's MOUVEMENTPHAS.ORG. That completes this episode of The Avalanche, a special edition of Off the Hour, airing every Wednesday from 5 to 6 p.m. To stay up to date with Avalanche news, check out our Twitter, at AvalancheCKUT. Thank yous are due to all those who make educational and inspirational radio here at CKUT possible. If you would like more information on anything you heard tonight, or would like to participate or support news produced by and for the Montreal community, please contact The Avalanche at avalanchecqt.ca or CQT's Community News Department at 514-448-4041, extension 6788, or news@cqt.ca. Stay tuned for Hearsay. That's up next.